Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié. Extrait du Credo, formule initiale, du Concile de Nicée en 325.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Pendant des siècles, la chrétienté occidentale et la chrétienté orientale ont vécu au sein d'une même communauté. Certes, il y avait régulièrement des accrochages plus ou moins sérieux entre l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople. Il y avait des discussions sur la possibilité ou pas pour le clergé de se marier. Mais une communauté de foi, une communauté de prière, même si la liturgie n'était pas identique, faisait tout de même une communauté religieuse. Or, à partir du 8e siècle, les liens se sont progressivement distendus jusqu'à la rupture de 1054. Pourquoi ? D'abord, il est indéniable que ce qu'on appelle l'affaire de l'iconoclasme a provoqué l'élargissement d'un fossé entre les deux chrétientés. L'iconoclasme est un débat autour du statut que l'on doit donner aux images du Christ, de Marie et des saints. Dans la chrétienté orientale, au sein de l'Empire byzantin, les tenants des images estimaient qu'il fallait adorer ce qu'elles représentaient. Or, il y avait également des iconoclastes, soutenus par le pouvoir impérial à partir de 723, qui estimaient qu'il fallait au contraire détruire ces images. Pourquoi cette crise ? D'abord, c'est parce qu'il y avait une vision différente, sans doute, de l'attention qu'il fallait porter à Dieu et à ses serviteurs. Mais également, le conflit de l'iconoclasme est un conflit entre le pouvoir impérial et le monde monastique qui défend le culte des icônes. Et le pouvoir impérial, de son côté, souhaitait briser la puissance économique des monastères. Ce qui fait que, à partir du règne de Léon III, eh bien, le culte des images est condamné. En 754, Constantin V avait convoqué un concile oriental qui déclare que l'iconoclasme, c'est-à-dire la destruction des images, devient dogme de l'Église. Il y a un arrêt de cette persécution iconoclaste sous la régence de l'impératrice Irène, mais après sa destitution, en 802, eh bien, la politique iconoclaste reprend sous Léon V, Michel II, Théophile. Il faut attendre la régence de Théodora en 843 pour rétablir dans l'Empire byzantin le culte des icônes. Cette décision est d'ailleurs célébrée par l'Église orthodoxe le premier dimanche de Carême, encore aujourd'hui. Or, ces conséquences de la crise iconoclaste ont joué sur les relations entre les deux parties de la chrétienté. D'abord, beaucoup de moines orientaux sont venus en Occident, en Italie du Sud, et en particulier à Rome, d'où d'ailleurs, au IXe siècle, le développement des splendides mosaïques romaines. D'autre part, il y a également la question de l'autorité au sein de l'Église. Est-ce que cette autorité appartient à l'empereur qui, comme à Byzance, régit la question du culte des icônes, ou bien à l'autorité de Rome et de son évêque ? D'autre part, des raisons politiques aussi sont venues jouer le trouble entre les deux chrétientés. La papauté et l'Empire byzantin avaient été longtemps unis. Théoriquement, l'évêque de Rome dépendait de l'Empire byzantin. Or, quand la papauté se rapproche de Pépin le Bref et des Carolingiens, eh bien, cela est très mal vécu en Orient, puisque désormais il y a un second empire, l'Empire d'Occident, Charlemagne ayant été sacré le 25 décembre de l'an 800, et s'affirmant comme le protecteur naturel de l'Église de Rome. Plus grave sur le plan théologique et liturgique, c'est ce que l'on appelle la querelle autour du filioque. Quand en 325, les pères de l'Église s'étaient rassemblés à Nicée, ils avaient rédigé le texte du Credo. Or, il était écrit: « Nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Mais il n'était pas question que l'Esprit procède du Père et du Fils. Or, en Occident, un premier changement a lieu au Concile de Tolède en 589, où les pères espagnols ajoutent « ex patri filioque procedit », c'est-à-dire « procède du Père et du Fils ». Cette formule se répand en Espagne, en Gaule franque, mais n'est pas encore utilisée à Rome et en Italie. Charlemagne décide, lorsqu'il est désormais empereur d'Occident, d'imposer le filioque en Occident. Il le fait utiliser dans les offices de la chapelle palatiale d'Aix-la-Chapelle. Il réunit un concile d'Aix-la-Chapelle en 809, qui en fait une vérité de l'Église. Le pape Léon III l'accepte comme vérité de foi, mais refuse de l'intégrer à la liturgie. Ceci ne se fera véritablement qu'au cours du XIe siècle. Il n'en reste pas moins vrai que le fait de ne pas avoir averti les orientaux pose un problème. Si sur le plan théologique, la question peut sans doute être discutée, et même sans doute est discutée aujourd'hui entre orthodoxes et catholiques, la question de la forme est évidemment critiquable. Il aurait fallu peut-être réunir un concile œcuménique pour changer le texte de 325, ce qui n'avait jamais été fait. Désormais, il y a bien deux textes du credo durant les liturgies en Occident et en Orient. Les tensions entre les deux parties de la chrétienté vont s'accentuer à partir de la première moitié du XIe siècle. D'abord pour une raison politique et militaire. Les Occidentaux reprochent aux Byzantins de ne pas intervenir avec suffisamment de force contre les Normands installés en Italie du Sud. D'autre part, il y a des polémiques autour de la question du célibat du clergé, puisque le clergé oriental peut être marié, du pain sans levain, d'une ou trois immersions pour le baptême. Mais il y a également la question fondamentale de la réforme grégorienne. Celle-ci, qui est entreprise au milieu du XIe siècle par le pape Léon IX, mais qui sera surtout illustrée par le pape Grégoire VII, d'où son nom de réforme grégorienne, vise à renforcer l'autorité du pape. Cette volonté de renforcer l'autorité de l'évêque de Rome est très mal perçue à Constantinople. Le patriarche, s'il reconnaît une espèce d'autorité morale et théorique au successeur de Pierre, n'est pas prêt à reconnaître une autorité de fait. Et donc, ce renforcement de l'autorité pontificale est très mal reçu par les autorités religieuses d'Orient. Aussi, il est question tout de même de négocier, d'essayer d'éviter une rupture. C'est pour cela que est envoyée, en avril 1054, une délégation pontificale conduite par le légat Humbert de Mourmoutier. Le problème, c'est que l'homme n'est pas fait pour la négociation. Et il va se heurter de manière frontale entre un autre personnage haut en couleur et à très forte personnalité, le patriarche Michel Cérulaire. Les discussions traînent en longueur, les deux hommes régulièrement se disputent, et la rupture va arriver par le fait que le représentant du pape, Humbert de Mourmoutier, décide le 16 juillet d'excommunier le patriarche de Constantinople, en déposant une bulle d'excommunication sur l'autel de Sainte-Sophie. Le 24 juillet, le patriarche lui répond en déclarant l'excommunication du légat. Le fossé se creuse pour ne plus se combler avec la politique de renforcement de l'autorité pontificale sous Grégoire VII. Mais d'autres événements vont faire que le fossé entre orientaux et occidentaux ne pourra être comblé. Il est indéniable que la première croisade en 1096-1099 avait été faite sans l'assentiment des orientaux. D'autre part, plus grave encore, l'impact qu'a eu le sac de Constantinople par les croisés latins en 1204 est resté profondément ancré dans la mémoire de la chrétienté orientale. Il y a donc désormais clairement deux chrétientés. Et il faudra attendre le Concile Vatican II et la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras en 1964 pour que les excommunications réciproques entre catholiques et orthodoxes soient enfin levées. Le temps du dialogue avait repris.